Le ministre des Outre-mer sur le territoire la semaine prochaine, François-Noël Buffet, vient rencontrer les forces vives du 16 au 18 octobre. Les Calédoniens convergent à New York où le comité de décolonisation de l'ONU examine le dossier calédonien. Un feu en cours sur le pic aux chèvres à Dembéa. Le sinistre est actuellement maîtrisé. Les pompiers appellent à la prudence en cette période de sécheresse et de vent. Matinée d'échange entre l'association Talent Calédonienne et le gouvernement. L'objectif, booster l'attractivité calédonienne dans le contexte de crise. Le Centre d'information droits des femmes et égalité de la province sud propose aux jeunes un monopoly pendant les vacances scolaires, un monopoly original. Il sensibilise aux inégalités. Former les professionnels calédoniens de la photographie au jeu de lumière, c'est le sens des 4 jours dispensés par Étienne List. Il est le meilleur ouvrier de France dans sa catégorie. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. François-Noël Buffet sera donc sur le territoire d'ici quelques jours. Le nouveau ministre des Outre-mer consacrera en effet son premier déplacement à la Nouvelle-Calédonie où il se rendra du 16 au 18 octobre. Elisabeth Noir.
Oui, le nouveau ministre des Outre-mer sera là la semaine prochaine, 5 mois après le déclenchement des violences insurrectionnelles. Dans un communiqué, le ministère des Outre-mer indique que cette visite témoigne dans le contexte difficile que connaît le territoire du soutien et de l'engagement total du gouvernement auprès de l'ensemble des Calédoniens. Et selon le ministère, lors de sa visite, François-Noël Buffet viendra expliciter l'annonce du Premier ministre de reporter les élections provinciales à 2025. Il sera notamment appelé à expliciter la nécessité de l'élargissement du corps électoral. Je suis heureux de venir à la rencontre de nos concitoyens de Nouvelle-Calédonie et de réaffirmer la volonté du gouvernement d'apporter des réponses rapides et pragmatiques à la crise que connaît ce territoire, déclare le ministre cité dans ce communiqué, et il précise que les enjeux de sa visite sont de poursuivre le dialogue et d'encourager la reconstruction. François-Noël Buffet, qui, rappelons-le, connaît bien la Calédonie, il y est venu à 2 reprises, en 2022 et en 2024, comme membre puis président de la commission des lois du Sénat, qui a publié un rapport détaillé sur le dossier calédonien. Sa visite n'est que la première de personnalités politiques qui devraient ensuite se succéder sur le territoire. Le Premier ministre Michel Barnier a indiqué qu'il se rendrait en Nouvelle-Calédonie le moment venu. Et puis on attend la mission de concertation et de dialogue menée par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et par le président du Sénat, Gérard Larcher. Une mission qui devrait se dérouler vers la mi-novembre.
L'actualité politique, c'est aussi ce courrier du Premier ministre au député Nicolas Metzdorf. Il y reprécise la position du gouvernement sur la question du dégel du corps électoral.
Une réponse du Premier ministre à un courrier dont l'avait saisi le député de la première circonscription. « J'ai pleinement conscience, écrit Michel Barnier, de la gravité des événements survenus en Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai dernier et de l'ampleur de leurs conséquences pour les habitants, comme pour les entreprises et les services publics. J'ai clairement affirmé, écrit-il, dans ma déclaration de politique générale, que l'État et mon gouvernement accompagneraient la Nouvelle-Calédonie et ses habitants dans la reconstruction du territoire et de son économie, au-delà donc de l'aide d'urgence apportée depuis 4 mois et demi et que je prévois de prolonger. Le Premier ministre évoque ensuite la question du corps électoral pour écrire qu'il a confirmé, en accord avec le président de la République, que le projet de loi constitutionnelle adopté en mai dernier par les deux assemblées ne serait pas transmis au Congrès. Ceci, ajoute Michel Barnier, ne saurait être interprété comme un abandon de l'objectif du dégel du corps électoral. Celui-ci demeure en effet un impératif démocratique et constituera à ce titre l'une des questions les plus importantes dans le cadre des discussions des prochains mois sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Le Premier ministre qui écrit encore à Nicolas Metzdorf qu'il souhaite que le report des élections provinciales permette à ces discussions de s'engager dans la sérénité. Je m'y emploierai avec l'appui des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et de ministres chargés des Outre-mer et le concours des élus et forces politiques de Nouvelle-Calédonie, écrit encore le Premier ministre Michel Barnier.
Le député Nicolas Metzdorf qui interroge le gouvernement sur la question des assurances. Dans un communiqué, il relève que la question des assurances est particulièrement cruciale et urgente et qu'elle affecte tous les Calédoniens, ceux qui ont été sinistrés, ceux qui veulent reconstruire, mais aussi ceux qui n'ont a priori pas connu de préjudice, mais qui rencontrent de très grandes difficultés à souscrire de nouveaux contrats. Cela fait 4 mois que les Calédoniens attendent de savoir s'ils seront indemnisés, à quelle hauteur et surtout dans quel délai, écrit le député de la première circonscription, qui trouve cela inacceptable. Il a donc décidé d'adresser une question écrite sur ce sujet au ministre des Outre-mer pour lui demander des réponses sur la prise en charge de la garantie émeute et événements assimilés de tous les contrats d'assurance existants et à venir pendant une période de 5 ans à partir du 1er décembre 2024. les Calédoniens à New York. Comme tous les ans au mois d'octobre, le comité de décolonisation de l'ONU, le C24, réunit son assemblée générale pour traiter de l'ensemble des processus de décolonisation et il se penche notamment sur la Nouvelle-Calédonie, Elisabeth.
Et comme régulièrement maintenant, les Calédoniens sont présents à l'ONU. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est représenté, mais aussi des pétitionnaires indépendantistes et désormais des pétitionnaires représentant les partisans de la France. C'est le cas de Naya Wateu, élue les loyalistes de la province sud-est du Congrès, qui depuis 3 ans maintenant intervient à la tribune de l'ONU. Et cette nuit pour nous, elle a de nouveau pris la parole pour expliquer que les Calédoniens ont achevé le processus de décolonisation en votant 3 fois contre l'indépendance et en expliquant ce qui s'est passé le 13 mai.
Le 13 mai, par la force et la violence, une partie des indépendantistes a fait voler en éclats cet avenir que nous appelions de nos voeux. Par la force et la violence, ils ont tenté d'imposer à tout un pays leur volonté d'indépendance. Par la force et la violence, ils ont détruit 30 années de paix et hypothéqué le destin commun de demain. La Nouvelle-Calédonie se trouve dans une situation sans précédent au regard de son histoire, fragilisée dans sa relation à l'autre, attaquée dans ses valeurs et détruite dans sa propre autonomie. Et qui va en payer le prix ?
Le 13 mai, les indépendantistes radicaux ont décidé de faire sombrer la Calédonie dans le chaos, déclare encore Naya Wateu. La présidente de la province sud est intervenue elle aussi devant le C24 et Sonia Bekes a indiqué que les indépendantistes radicaux, aidés par des puissances étrangères comme l'Azerbaïdjan, ont dévasté l'économie en détruisant des milliers d'entreprises.
Pendant de longues semaines, les Calédoniens ont subi une attaque unilatérale, effroyable, orchestrée par ceux qui tentent d'arracher par la violence ce qu'ils ont été incapables d'obtenir par les urnes. Pendant de longues semaines, les Calédoniens ont dû se défendre seuls face à des miliciens indépendantistes qui, pour les faire quitter notre île, détruisaient tout en hurlant mort aux blancs. Ces slogans faisaient écho aux propos officiels tenus à l'Assemblée nationale par le président du Congrès, Roch Wamitan, quelques semaines avant le 13 mai. « Nous avons atteint notre quota de blancs », disait-il. Je sais cette honorable assemblée réellement attachée à la lutte contre la violence et le racisme. Les Calédoniens, qu'ils soient loyalistes ou indépendantistes modérés, attendent que vous condamniez sans réserve ces actions inqualifiables.
Et c'est pour porter la voix des chefs d'entreprise et des salariés qui ont tout perdu que Brieuf Rogier, élu à la province sud et au Congrès, est intervenu à son tour devant le C24 pour déclarer que les indépendantistes radicaux ont méthodiquement détruit tout ce qui permettait aux Calédoniens d'avoir un emploi et un salaire.
Notre économie est dévastée. Avec les entreprises détruites, ce sont des dizaines de milliers de Calédoniens, chefs d'entreprise et employés, dont la vie a été funestement bouleversée. Ce sont des décennies de travail qui ont été réduites en poussière. C'est pour la plupart le travail d'une vie qui s'est envolée sous leurs yeux. Nous avons voulu croire au vivre ensemble dans les entreprises, se mélanger à l'intérieur toutes les communautés, toutes les opinions politiques. Et c'est cela, ce vivre ensemble auquel nous avons voulu croire, qui a été le plus abîmé et qui sera, sans aucun doute, le plus long à reconstruire.
Voilà pour ces déclarations des partisans de la France. Les indépendantistes, de leur côté, étaient représentés par des pétitionnaires issus du Sénat coutumier. Mais cela est-il vraiment utile d'intervenir devant le C24 ? À quoi cela sert-il ? La réponse de Bastia Van den Dyck, c'est le directeur de cabinet du président de la province sud et il est spécialiste en relations internationales.
Il y a 2 intérêts à être présent sur place. Le premier, c'est effectivement de faire entendre notre voix dans le concert des nations. C'est important, c'est une tribune qui est donnée à l'ensemble des acteurs calédoniens pour faire valoir leur position. Et puis, le deuxième intérêt, qui est peut-être le plus important, c'est qu'à la fin de chaque année, le C24 produit un rapport. Et si d'aventure, les partisans de la Nouvelle-Calédonie française ne laissaient la place qu'aux indépendantistes, l'ONU n'aurait qu'une vision partielle. Et donc, dans ces rapports, qui ont un certain nombre d'implications politiques et juridiques, il n'y aurait que la voix des indépendantistes qui compterait. Et là, la présence de Sonia Bekes, de Brieuf Rogier et de Naya Wateu va permettre de rééquilibrer les échanges et va permettre à l'ONU de donner une vision plus juste, plus claire de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie.
Outre les pétitionnaires indépendantistes et partisans de la France, intervention également devant le C24 de Claude Gambet au nom du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il a évoqué lui aussi le déferlement de violence du 13 mai et il a présenté ce qu'il a appelé l'approche actualisée du gouvernement français en faisant allusion à la déclaration de politique générale du Premier ministre Michel Barnier. L'ambassadeur de France auprès de l'ONU a lui aussi pris la parole pour évoquer le rôle qu'avait joué l'État, notamment depuis les émeutes du 13 mai. Un État qui a rétabli le calme, a-t-il dit, et qui a aidé financièrement la Nouvelle-Calédonie.
Au chapitre des faits divers, un incendie toujours en cours sur la zone du Pic aux Chèvres à Dambéal et Anacolombo.
Le sinistre s'est déclaré vers 13h30. La mission d'appui de la sécurité civile et la DSCGR sont mobilisées aux côtés des pompiers de la ville. L'origine du feu est un écobuage. Des habitations de la ZAC Panda ont été menacées. C'est la deuxième fois que cette zone résidentielle est la proie d'un incendie ces dernières semaines. Les pompiers appellent à la plus grande prudence en cette période de vent et de sécheresse. Rappelons que l'usage du feu est interdit sur le territoire de la commune de Dambéa du 1er septembre au 31 mars.
Oui, alors un sinistre actuellement maîtrisé et puis un voyage en mer qui tourne mal, Léana.
Oui, une femme d'une soixantaine d'années a été évacuée en direction du Médipôle alors qu'elle se trouvait à bord d'un navire de croisière au large du Vanuatu. Aux alentours de 17h, un hélicoptère Puma Defunk, en coordination avec le COSNC, un rapatrié surnommé à la patiente, souffrant d'une crise d'appendicite aiguë et nécessitant une opération chirurgicale. Elle est actuellement prise en charge par le personnel soignant du Médipôle.
Enfin, la Goune alerte sur un mail frauduleux de type hameçonnage qui circule actuellement.
Si vous avez reçu dans votre boîte mail un message de l'expéditeur client service avec l'objet « Lagoon-urgent », faites très attention car il s'agit d'une fraude pour avoir accès à vos données personnelles. Ne cliquez pas sur le lien inscrit dans le mail et bloquez l'expéditeur. Le fournisseur d'accès à Internet rappelle que si un mail vous semble suspect, il ne faut pas hésiter à le contacter pour savoir si ce mail émane de leur service ou pas.
L'association Talents Calédoniens réunissait aujourd'hui ses membres pour une matinée d'échange sur l'avenir de l'économie en Nouvelle-Calédonie, Léana.
Et l'objectif était simple, permettre aux membres de se retrouver après plusieurs mois difficiles sur le territoire. Talents Calédoniens, pour rappel, c'est une plateforme qui vise à favoriser l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie vis-à-vis des talents d'ici et d'ailleurs. Ce matin, une cinquantaine de membres ont répondu présents, dont Amy Pironne. Elle est hypnothérapeute et pour elle, c'était important de représenter le milieu de la santé dans les discussions sur l'avenir économique de la Nouvelle-Calédonie.
C'est important parce que le milieu de la santé a besoin de se faire entendre et notamment dans notre milieu un peu spécifique qui est la santé mentale, on voit très bien qu'aujourd'hui donc, les personnes souffrent. Et donc je me dis qu'en amenant en fait ma petite pierre, mon petit bagage santé à talent calédonien, ça peut aussi encourager des professionnels à venir ou à revenir en Nouvelle-Calédonie, partager les problématiques que nous on peut avoir et sur lesquelles le talent pourrait amener des solutions par exemple.
Christopher Gigès et Michael Forest, membres du gouvernement, étaient également présents. L'occasion pour eux de présenter dans les grandes lignes le PS2R, plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction, ce qui a permis d'échanger sur les différentes problématiques, les difficultés actuelles et surtout de tracer une ligne directrice pour le futur. Pierre Kolb, président de l'association Talents Calédoniens.
On sait bien que c'est très facile de détruire et par contre c'est beaucoup plus difficile de construire et ça il faudra du temps, c'est pas en quelques jours que les choses vont se rétablir. Les entreprises souffrent énormément et il y a une forme d'urgence, hein, ça il faut le garder à l'esprit. Les entreprises ne vivent pas comme ça sur un fil, elles vivent parce qu'il y a une activité et aujourd'hui leur activité est évidemment très très affectée. Mais au-delà de ça, je pense que la période actuelle qui est désastreuse, hein, est aussi peut-être une opportunité de reconstruire différemment et d'avoir une ambition différente. Si on arrive aujourd'hui à fédérer une vision commune, on peut reconstruire une Calédonie, je dirais, qui serait encore plus belle et encore plus fière que hier.
Talents Calédoniens a réalisé une série de capsules vidéo pour mettre en avant l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie. Des vidéos à retrouver sur leur page Facebook Talents Calédoniens.
L'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie s'intéresse à la refonte du modèle économique calédonien. Dans une note, la CNC propose au pouvoir public deux scénarios de développement économique pour concilier la baisse du coût de la vie et le soutien à la production locale. Elle propose d'améliorer le modèle actuel en se reposant sur un système de protection de marché incitative et dégressive pour les industries locales. Le deuxième scénario préconise une ouverture plus régionale de l'économie en identifiant des filières stratégiques destinées à l'export. L'autorité recommande enfin de réaliser sans délai un audit du système des protections de marché actuel permettant d'en mesurer les coûts et les bénéfices pour la Calédonie. Une forte augmentation du nombre de chômeurs avec 6 000 salariés en moins, une hausse des radiations d'entreprises, une chute de l'extraction minière et des prix d'alimentation qui grimpent en flèche, visait à diffuser une première analyse des conséquences de la crise. Pour en parler, nous recevrons demain matin Élise Desmazures, la directrice de l'Institut de la statistique et des études économiques. Elle sera notre invitée à 7h30. Et puis notez ce rendez-vous d'antenne pour demain midi. Nous recevrons Eric Deschemaker qui est professeur de droit privé à Melbourne et s'intéresse de près au dossier calédonien auquel lequel il a consacré de nombreuses tribunes dans la presse et notamment dans le Figaro. Il se trouve actuellement sur le territoire et nous le recevrons demain dans notre édition de la mi-journée pour l'interroger sur sa vision de la situation de la Nouvelle-Calédonie et sur l'analyse qu'il en fait.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, le gouvernement va-t-il réussir selon vous à obtenir un consensus sur son plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction? Si vous pensez que oui, vous tapez 1, si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 86% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent qu'il ne sera pas possible de sécuriser durablement la circulation sur la RP1 à hauteur de Saint-Louis. Ils sont 14% à penser à l'inverse que l'on y parviendra. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Il est 18h01. Nous marquons une première pause dans ce journal avant de développer la suite de l'actualité en Calédonie. On parlera de ces 15 000 livres sauvés des flammes par la ville de Nouméa. On se retrouve après une courte page de pub.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1 500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Info soir, Isabelle Pelletier.
Le service d'emprunt des livres reprend à Nouméa. Depuis 4 mois, les médiathécaires tentent de récupérer un maximum d'ouvrages. Pour rappel, les médiathèques de Caméré et de Rivière-Salée ont presque entièrement brûlé. De Rivière-Salée, il ne reste quasiment rien. En revanche, de nombreux documents ont pu être sauvés à Caméré. Au total, 15 000 ouvrages ont été récupérés et sont maintenant disponibles au prêt, mais sous un format adapté de click and collect. On écoute les précisions de Marie Carbou, médiathécaire en charge du fonds pour les adolescents.
Donc en fait, le catalogue de nos documents sur le portail de la médiathèque est disponible en ligne. Et donc nos lecteurs peuvent faire leur choix directement sur le portail, réserver les documents qui les intéressent. Et ensuite, avec un système de rendez-vous, on a mis en place un agenda en ligne où ils peuvent prendre rendez-vous pour venir récupérer les documents. Dès hier, on a eu déjà des demandes. On a les premiers rendez-vous qui sont pris là dans les prochains jours. Donc oui, on est très contents. Et on espère que ça va se développer, qu'on aura plein de demandes. C'est vrai que c'était quelque chose qu'attendaient nos lecteurs, les familles en particulier. Et comme on a sauvegardé beaucoup de documents enfants, c'est bien de pouvoir reprêter tous ces livres et de les faire circuler à nouveau, parce que c'est le sens de notre métier aussi que de transmettre et de rendre accessibles les documents de tout type à nos lecteurs.
Les réservations sont donc à faire sur le site internet web médiathèque, tout attaché, médiathèque au pluriel, .nouméa.nc. Les livres sont ensuite à récupérer à la maison des associations, 1 bis rue Gustave Flaubert à l'Orphelinat. Les vacances scolaires ont débuté hier et à cette occasion, le Centre d'information droit des femmes et égalité de la province sud organise plusieurs ateliers éducatifs pour les enfants, Charlotte Coulson.
Avec un jeu particulier puisqu'il s'agit du Monopoly des inégalités. Le but est simple, comme un Monopoly classique, il faut essayer d'acquérir des propriétés. Pour débuter le jeu, chaque joueur pioche une carte sur laquelle est détaillé un personnage, un homme ou une femme de catégorie sociale et d'origine ethnique différente, autant de caractéristiques qui leur fournissent des avantages ou des malus au cours de la partie. En bref, un moyen de sensibiliser le grand public aux inégalités de tout genre. Une quinzaine d'enfants ont pu s'essayer au Monopoly ce matin et tous étaient assez investis.
En règle générale, on participe à beaucoup de thématiques de la province sud, mais celle-ci était intéressante parce que ça permet aux enfants de comprendre ce qui se passe autour d'eux et en douceur par le biais du jeu. Et c'est intéressant pour eux, c'est très éducatif. Ils sont en vacances, donc le jeu et apprendre par le jeu, c'est vraiment quelque chose qui est significatif des vacances. Jusque-là, ça a l'air, ils ont l'air très motivés, je les vois, ils sont très captivés. Ils sont très très intéressés et par leur catégorie dans la vie par rapport à leur personnage, ça a vraiment l'air de les passionner.
Et c'était donc Aline qui est bénévole au village de Magenta que vous venez d'entendre. Et tout de suite, on écoute les enfants qui jouaient au Monopoly ce matin.
La carte redistribution, en fait, elle permet aux catégories A de redistribuer de l'argent.
Moi, je m'appelle Louis, je suis âgé de 62 ans. Je suis en catégorie C. Mon salaire est de 100 euros et mon patrimoine est de 600 euros. J'ai des désavantages. Bah oui, parce que je suis en patrimoine C. Les seuls qui ont le plus d'avantages, c'est la A, la B et bah les C, ils sont
en
dernier.
Du coup, Aurélie, en fait, il devra reverser 100 euros à toutes les catégories C qui sont présentes ici.
Je m'appelle Aurel et j'ai 55 ans et ma catégorie c'est A, salaire 300 euros et patrimoine 2000 euros. C'est que les catégories C ont un mauvais salaire et les catégories A, ils ont beaucoup d'argent.
Le jeu, ça fait comme la vie, qu'on a comme des problèmes.
Les A, c'est les très aisés et les C, c'est les très pauvres. Parfois dans la vie, il y a des moments où les A, ils versent de l'argent pour aider les pauvres.
Une activité qui sera donc reconduite avec les jeunes du village de Magenta pendant toute la durée des vacances scolaires.
Étienne List, photographe depuis 30 ans et meilleur ouvrier de France, forme depuis hier un petit groupe de professionnels locaux, une formation de 4 jours organisée par la Fédération des photographes et des métiers de l'image de la Nouvelle-Calédonie, Charlotte.
Spécialiste du nu artistique, Étienne List initie durant 4 jours 7 photographes calédoniens à la maîtrise des lumières créatives, le cœur de son travail, ainsi qu'à la post-production. Photos de mode, portraits ou nu, l'apprentissage se fait par la pratique avec l'adaptation des lumières à chaque contexte. Étienne List a ouvert son studio à Strasbourg il y a plus de 10 ans. Il a été consacré portraitiste de France Excellence Major en 2013 et meilleur ouvrier de France en photographie industrielle en 2023. Aujourd'hui est le deuxième jour de la formation qu'il dispense.
On est sur d'abord une première demi-journée théorique où on va rappeler la sémantique de la photographie par rapport à tout ce qu'on peut utiliser comme accessoire, comme façonneur sur les flashs. Après, on va tout de suite aller dans le concret sur des fonds clairs. Et après, dans la deuxième journée, là aujourd'hui, on va juste encore faire un setup avec un voile, leur montrer comment avec un voile on peut agrémenter des photos assez facilement. Puis après, on va passer sur des fonds foncés, où là, le portrait sera la partie la plus claire de la photo. Et demain, on va attaquer la post-production. C'est d'abord le fait de choisir ces images, donc de l'édition d'images. Après, le développement de l'image, c'est-à-dire réajuster les contrastes, les couleurs. Et une fois qu'on a fait ça, de la retouche proprement dit, on est à la chasse au brouille optique, c'est-à-dire aux choses qui attirent le regard dans la photo inutilement et qui enlèvent l'intention pour laquelle on a fait l'image.
Une formation de 4 jours qui est organisée par la Fédération des photographes et des métiers de l'image de la Nouvelle-Calédonie, la FFPMI-NC. Le principe, améliorer encore et toujours le niveau de technicité des photographes professionnels du territoire. Noémie Duterte est vice-présidente de la FFPMI.
On a vraiment à cœur que la profession s'enrichisse pour nos clients, qu'on ait tous un très bon niveau. Lui, il est meilleur ouvrier de France. C'est comme si vous aviez Philippe Etchebest qui vient former 10 cuisiniers. Forcément, les 10 restaurants derrière seront meilleurs. Là, c'est pareil. On a un photographe qui vient et 7 stagiaires derrière seront meilleurs. Il y a 4 ans, au tout début de la FFPMI, on a eu quelqu'un qui est venu nous former au mariage et à l'underwater, c'est-à-dire la photo sous-marine. Ensuite, on a eu Delphine Denan qui est venue nous former au corporate, c'est-à-dire tout ce qui est photo d'entreprise, photo sur fond blanc et aussi du reportage en entreprise. Et là, donc, c'était en studio. Mais là, lui, il nous apporte une technicité qui est vraiment haute, qui fait qu'on peut vraiment s'adapter à la demande du client et aussi exprimer notre côté artistique.
Et les métiers de l'image qui ont évidemment beaucoup souffert durant cette période d'émeute. Le travail reprend en douceur depuis quelques semaines. La venue d'Étienne List représente donc une bouffée d'oxygène pour la profession.
Les festivités reprennent peu à peu sur l'ensemble du territoire. Après la foire du Pacifique le week-end dernier, place désormais au Salon des collectionneurs. Il débutera ce vendredi à l'hôtel de ville de Nouméa. Ce midi, notre magazine citoyen lui était consacré à une 24e édition qui a failli ne pas voir le jour, explique Daniel Miro, co-organisateur du Salon des collectionneurs.
Je crois que jusqu'au dernier moment, on se demandait si ce salon allait pouvoir avoir lieu, compte tenu de toutes les péripéties qui ont marqué le déroulement de cette année 2024. On en est à notre 24e année de salon, et je crois que c'est un grand plaisir pour toutes et tous, parce qu'il y a encore 2 mois, on s'imaginait, on se demandait si le salon allait pouvoir avoir lieu, parce qu'il fallait aussi trouver des dates. Ce n'était pas évident. Et je reconnais que ça a été un gros travail, beaucoup de soucis, à savoir, allons-nous pouvoir enfin monter sur ce salon. Et puis, il faut dire une chose, c'est qu'on a aussi des soucis toujours un petit peu actuels, même s'ils ont diminué. C'est quelques exposants du Mont d'Or qui, malheureusement, n'ont pas pu venir et qui sont toujours bloqués au Mont d'Or. Donc ça, c'est encore un petit problème.
Malgré ces problématiques, près de 35 collectionneurs seront présents lors de cette édition, soit le nombre habituellement atteint les autres années. Pour la première fois, les visiteurs pourront découvrir une collection sur le thème des vélomoteurs et mobilettes ou encore sur les emballages de sucre. Les stands habituels de timbres, pièces, vinyles et coquillages seront bien entendu présents, tout comme la collection Pokémon d'Inès de la Petrona, une passionnée depuis le plus jeune âge.
J'ai commencé très tôt, en fait. J'ai surtout commencé avec les cartes lorsque j'avais 10 ans. Je suis de la génération du Club Dorothée, tout ce qui est dessin animé, animé, manga. Donc Pokémon s'est tombé pile pendant cette période-là. Ça ne m'a jamais vraiment quittée. Et j'aime toujours, on va dire, cet univers, les jeux vidéo, notamment le dessin animé. Je collectionne pour le plaisir de collectionner. Certaines personnes collectionnent plus pour le côté spéculatif, tout ce qui est investissement, évidemment. Mais certaines cartes Pokémon valent des millions de dollars. J'en avais déjà parlé l'année dernière, mais la carte la plus chère, qui est toujours la plus chère, c'est Pikachu Illustrator, qui vaut 6 millions de dollars, donc 650 millions de francs CFP à peu près.
Est-ce qu'on peut dire c'est qu'elle ne sera pas exposée à Nouméa, celle-ci ?
Non, mais elle est actuellement en vente sur eBay pour 4 millions de dollars.
Une activité prenante qui parfois pousse à dépenser de très grandes sommes d'argent, car quand on aime, on ne compte pas. Et la collection, c'est avant tout une histoire de passion. William Liguiri collectionne les coquillages et tableaux de Nouvelle-Calédonie. Il avoue y consacrer beaucoup de temps.
C'est chronophage, et généralement, que ce soit la famille ou le conjoint, à un moment donné, il s'y plie, quoi. Soit il s'y plie. C'est rare qu'un collectionneur abandonne. Ce qui est sûr, c'est qu'un collectionneur n'abandonne pas. Et s'il doit s'y plier pour raison familiale ou autre, ou matrimoniale, il va le faire en cachette. Donc moi, je connais beaucoup de collectionneurs qui achètent, je veux dire, en cachette de leur femme, ou l'inversement. Qui vont même avoir des pièces où ils vont stocker dans un box une collection, et jusqu'au décès, les gens ils sauront même pas qu'il a la collection. Donc c'est quand même c'est obsessionnel, quoi. Hein.
Un magazine citoyen consacré au Salon des collectionneurs qui se déroulera, on rappelle, de vendredi à dimanche, de 8h à 18h, à la mairie de Nouméa. Était également présent sur ce plateau Jean-Pierre Bressler, co-organisateur de l'événement, et Pascal Riegenbach, collectionneur de modèles réduits, qui sera présent au Salon. Une émission citoyen que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site internet rrb.nc. 18h12, nous marquons une seconde pause dans ce journal avant de développer l'actualité dans la région et puis le sport. À tout de suite.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Isabelle Pelletier.
Et l'actualité dans la région avec ce risque de pollution au Samois. Des militaires vont évaluer les risques après le naufrage du navire hydrographique néo-zélandais samedi soir. Il repose à 1 000 nautiques environ de l'île d'Upolu. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
D'après les autorités samoanes, le bâtiment se trouverait entre 35 et 150 mètres de profondeur. Maintenant que son équipage et les spécialistes qui l'avaient embarqué ont tous été sauvés, les risques environnementaux vont être analysés, d'autant qu'il a été révélé que les soutes du Manawanui renfermaient plusieurs types de carburant, dont près d'un millier de tonnes de diesel qui étaient destinées à la propulsion du bâtiment. Le contre-amiral Golding, commandant de la marine Kiwi, a indiqué qu'une équipe de plongeurs va d'abord s'assurer qu'il n'y a aucune rupture des réservoirs du navire et qu'aucune fuite de mazout n'a été détectée. Il a cependant ajouté qu'il était encore trop tôt pour évoquer une éventuelle opération de sauvetage du bâtiment. Cela va être assez complexe et assez difficile en raison de l'endroit où se trouve le navire, a confirmé le Premier ministre kiwi, Chris Luxon. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Les sports, et on l'a appris hier soir, les mini-jeux du Pacifique 2029 auront lieu aux îles Cook et les Jeux du Pacifique 2031 se tiendront en Tonga, Léana Colombo.
Des décisions annoncées à la suite du Conseil des Jeux du Pacifique qui s'est tenu ces derniers jours à Palau. Une délégation calédonienne était sur place avec notamment Christophe Dabin, président du Comité territorial olympique et sportif, et Michel Quintin, directeur du CTOS. Ce dernier s'est dit satisfait que les mini-jeux de 2029 aient été attribués aux îles Cook.
Des candidats qu'on a supportés parce que je crois que les derniers mini-jeux qui ont eu lieu là-bas ont été très très réussis. Donc nous on est plutôt satisfaits et on espère avoir des beaux mini-jeux sur place là-bas.
Et donc, ce sont les Tonga qui accueilleront les Jeux du Pacifique en 2031. Michel Quintin et la délégation calédonienne sont moins satisfaits de ce vote, puisqu'en 2019, les Tonga avaient déjà obtenu l'organisation des Jeux, mais avaient renoncé 2 ans avant l'échéance.
Ce n'est pas le candidat qu'on a supporté. Face au Tonga, il y avait Fidji qui avait plus notre soutien de par la solidité de leur candidature. Maintenant, Tonga a bien joué sur justement l'émotion, demandant surtout pardon à l'ensemble des comités olympiques pour ce qui s'était passé pour 2019 et en demandant justement qu'une deuxième chance leur soit donnée.
L'an prochain, les mini-jeux du Pacifique auront lieu à Palau.
Et puis du football avec le départ ce matin de la sélection A de Nouvelle-Calédonie pour les Fidji, Léana.
Les joueurs qui évoluent sur le territoire sont partis avec l'ensemble du staff. Ils seront rejoints directement aux Fidji par les joueurs qui jouent en métropole. Les Kagous seront opposés jeudi à la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde. Coup d'envoi de la rencontre à 15h, heure de Nouméa. Le match sera à suivre en direct sur la plateforme internet de la FIFA.
Merci Léana. 18h16, c'est presque la fin de ce journal. On va passer à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous, Nicolas.
Alors, cette nuit, sur le nord-ouest, les nuages se dissiperont rapidement et le ciel deviendra clair. Sur l'ouest, le vent deviendra variable faible, mais des accélérations seront possibles au débouché de certaines vallées sur le nord-ouest. Ailleurs, le vent d'est-sud-est soufflera entre 10 et 15 nœuds. Les températures minimales seront comprises entre 18 et 21 degrés en général et de 13 à 17 degrés dans l'intérieur des terres, ainsi qu'à Marais et l'île des Pins. Demain matin, soleil prédominant sur l'ensemble du territoire. Le vent d'est sud-est soufflera autour de 10 nœuds, localement entre 10 et 15 nœuds sur la pointe nord-est, Bélep et la région de Nouméa en fin de matinée. Sur l'ouest, il sera variable faible en début de matinée, puis les brises de secteur sud s'établiront autour de 10 nœuds.